Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute. Et nous allons entendre la lecture des textes bibliques, des textes qui ont été écrits il y a à peu près 2000 ans, qui n'ont pas changé, sont toujours les mêmes, parce que la vérité de Dieu ne change pas en fait. Elle sera toujours la même, même dans les centaines d'années qui vont encore venir. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles pour ceux qui en ont dans Romains 6, et nous entendrons les versets 1 à 14, et ensuite nous irons dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Donc commençons avec Romains 6, les versets 1 à 14. Et merci à Martin, le papa de Joël, qui se fera baptiser, qui va nous lire ce texte.
Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme arme pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. 1 Corinthiens 1, verset 18 à 31. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur.
Voilà, nous aimons régulièrement, quand les enfants rejoignent la garderie ou parfois l'école du dimanche, ben, on peut prier dans notre cœur pour eux, hein, que Dieu les garde, leur donne aussi de vivre un bon temps ici, dans ce temps qu'ils sont ensemble. Alors aujourd'hui, il y a du soleil, ça m'arrange en fait. Enfin, je vais parler du soleil. Sans soleil, tout serait gelé. Il ferait très froid. Alors certains me voient venir. Sans le Saint-Esprit, notre compréhension et notre cœur restent froids. Ne peut comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça que je compte sur le soleil de la grâce de Dieu aujourd'hui encore pour chacun de nous, pour moi, comme pour chacun d'entre vous. Le baptême, nous parlons de ce sujet bien sûr évidemment ce matin, est un symbole visible de l'œuvre de l'Évangile dans la vie d'une personne. Mais j'aimerais commencer par une petite histoire, j'ai besoin de votre imagination. Je vous invite à entrer dans le royaume des chenilles. Vous les voyez ces chenilles ? Toutes sortes de couleurs, des petites, des plus grandes. Et dans ce royaume, il y a malheureusement un tyran qui veut le mal de ses chenilles. Il les maltraite, ils doivent obéir à tous ses ordres, sinon il les frappe, ou même, pour celles qui obéissent le moins, il les tue. Et dès qu'elles sont mortes, dans sa cruauté, il est content qu'ils soient restés chenilles, hein, et même s'il ne peut plus leur donner des ordres, il les donne aux oiseaux. Bon, ça pas très joli, hein. Mais il y a un bon roi puissant dans un autre royaume et qui voit ce qui se passe dans le royaume des chenilles. Et il réfléchit à comment les aider. Alors, supportant les atrocités du tyran, là je ne vais pas dans les détails, il prend des chenilles et les met dans un linceul. Un linceul, c'est pour les enfants, hein, c'est où on met ceux qui sont morts. Étant considérés comme morts, les chenilles dans leur coquille sont sorties du royaume du tyran. Et arrivées dans le royaume du bon roi, elles ressortent de leur cocon en magnifiques papillons. La chenille est morte. Le tyran n'existe plus en fait. Il ne doit plus obéir et être esclave de celui qui voulait qu'elle reste chenille, qu'il soit mise à mort pour être donnée aux oiseaux. La chenille devenue papillon est vivant dans un royaume où le papillon est infiniment reconnaissant à ce roi si bon qui l'a sauvé pour qu'il va vivre et utiliser ses capacités. Être uni avec Christ, c'est, si on prend cette illustration, passer du royaume des chenilles à celui des papillons. Être uni à Christ, c'est passer du royaume des chenilles à celui des papillons. Être uni avec Christ, c'est mourir dans sa vieille nature, être mis dans un cocon, une chrysalide. Hein. L'ancienne nature de la chenille disparaît et elle reçoit une nouvelle nature. Et sa façon de manger ne sera plus la même. Sa façon de se déplacer ne sera plus la même. Et tout cela sera développé dans les trois points que nous allons voir, qui est basé sur Romains 6, 3 et 4. Regardez Romains 6, 3 et 4. Il est dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ » donc qui avons été baptisés, hein, ce n'est pas le baptême qui fait ça, c'est un symbole. « C'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Et là, on retrouve les trois choses. Hein. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc la première chose qu'on va voir, c'est nous sommes unis avec Christ dans sa mort. La nature de la chenille disparaît. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Deuxièmement, unis avec Christ dans sa résurrection. La nature du papillon apparaît. Comme Christ est ressuscité d'entre les morts, pour la gloire du Père, de même, nous aussi. Et troisièmement, unis avec Christ dans sa vie. La vie du papillon. Nous marchions en nouveauté de vie. En commençant par la première partie, unie avec Christ dans sa mort. En fait, lorsque nous naissons, vous et moi, lorsque nous sommes nés, nous étions descendants de quelqu'un. Et si on remonte toujours plus haut, eh bien nous étions descendants de celui qui avait la possibilité d'obéir à Dieu ou non. Et Adam, donc si on remonte jusqu'au premier, c'est Adam qui n'a pas désobéi, nous a tous plongés dans le péché. Il a rendu vivant le péché dans notre vie, si vous voulez. Et ça, vous le trouvez dans le début de la Bible, dans Genèse 3. Alors juste une petite illustration pour comprendre un peu ce qui s'est passé là. On pourrait dire que Adam était dans la lumière avec le soleil qui éclairait tout. Et il avait la possibilité de détruire ce soleil. Et il savait qu'une fois détruit, il disparaîtra, la nuit se mettrait à vivre et cela resterait pour tous ses descendants. Parce que ce n'est pas en naissant que l'on peut recréer le soleil perdu, s'il est perdu. Ce n'est pas parce que je nais après quelqu'un qui a tout cassé que d'un coup tout se remet en place. Adam a choisi de détruire le soleil dans cette illustration. Et les ténèbres ont commencé à vivre. Et tous les enfants qu'il a eus jusqu'à nous aujourd'hui sont nés dans un monde sans soleil. Et il n'est pas question de nous demander si c'est juste ou non. C'est une réalité. C'est un fait. Cela nous enseigne aussi que ce que l'on fait a des conséquences pour les autres. Et l'acte d'Adam a eu des conséquences sur toute sa descendance. Il pouvait laisser le soleil ou le détruire. Il l'a détruit et nous sommes dans les ténèbres depuis lors. Ce royaume s'appelle le royaume du péché. Celui qui a incité Adam à détruire le soleil s'appelle Satan, c'est le tyran. Et comme il est le père du mensonge, il cherchera par tous les moyens à ne pas être vu comme un tyran ou à se faire oublier. Voilà pourquoi bien des personnes se moquent quand on parle de Satan. Revenons à l'illustration de la chenille. Ça va vous arriver, on est un peu dans les illustrations ce matin, mais vous allez me suivre avec moi. Si on reprend l'illustration de la chenille, depuis qu'Adam a péché, on pourrait dire qu'il est devenu chenille dans le monde, dans le royaume du tyran. Et que tous les enfants qu'il a sont des chenilles et vivent dans ce même royaume. En mourant, la chenille subit le même sort que son tyran, puisqu'il est resté attaché à ce royaume qui est condamné par Dieu. Hein, si la chenille meurt chenille, ben, voilà, c'est le même jugement que le tyran. Tout ceci pour que nous puissions comprendre que nous avons une nature qui est mauvaise. Il n'y a qu'à réfléchir à tout ce que nous avons fait, pensé, qui ne correspond pas à ce qui est bon selon Dieu. Alors, qu'est-ce qui est bon selon Dieu ? Ce qui est bon selon Dieu, par exemple, c'est la vérité, le respect de la vie, le respect des autorités, le respect du repos nécessaire, le respect du bien des autres, le contentement, le respect des alliances selon Dieu, le respect de Dieu. En bref, un amour pour Dieu et son prochain. Malheureusement, et je pense que vous en conviendrez avec moi, nous n'avons pas besoin d'apprendre à être égoïste, par exemple. Nous n'avons pas besoin d'apprendre à être égoïste, à vouloir dominer, à nous irriter quand ça ne se passe pas comme nous le voulons, ou à cacher ce qui ne nous est pas favorable, ou à jalouser ce que les autres ont. Je m'arrête, hein, mais tout cela, parce que nous avons une nature mauvaise. tout cela, c'est pour cela que nous n'avons pas besoin de l'apprendre.
C'est parce que nous avons une nature mauvaise.
Et s'il n'existait que le royaume des ténèbres, nous ne pourrions jamais nous séparer de cette nature mauvaise. Mais il existe un autre royaume. Il existe un autre royaume, celui qui a pour roi Jésus-Christ, qui est venu dans le royaume des ténèbres, qui a choisi de mourir dans ce royaume pour que nous puissions mourir avec lui, que cette nature mauvaise, quelque part, meure avec lui et être délivrés de cette nature mauvaise. C'est cette union avec Christ dans sa mort, en fait. Et là, celui qui prie, je vous donne un exemple de ce qui peut être prié. Ô Dieu, je reconnais que je suis pécheur. J'ai tant d'exemples qui le démontrent pratiquement dans ma vie, comme le mensonge que j'ai dit hier pour cacher que j'étais en retard par mon manque de sérieux. La pensée meurtrière lorsque j'ai souhaité que cette personne qui m'irrite n'existe pas. Et tant d'autres péchés. Je veux être libéré de ce qui me pousse à pécher. Et je demande pardon pour les péchés que j'ai commis, car j'y suis poussé. Car si je suis poussé, je reste responsable de mes actes. Je te demande pardon et te prie de me donner la force de demander pardon à ceux que j'ai offensés. Je crois que Christ est mort, il a pris ma place sur la croix. Ma mauvaise nature est morte sur la croix avec lui. En faisant cette prière, en fait, j'indique à Dieu que son esprit a réveillé mon cœur. Je suis conscient qu'il faut que ma mauvaise nature soit mise à mort. Et c'est en fait en priant ainsi que mon ancienne nature est mise à mort. Et c'est ce qu'ont fait ceux qui vont se faire baptiser, comme ils le témoigneront tout à l'heure. Or c'est simpliste, diront certains. Mais c'est impossible de faire autrement. Personne ne peut enlever sa nature lui-même, et même s'il avait le pouvoir de la mettre à mort, il n'aurait pas le pouvoir de s'en donner une nouvelle. Personne n'a le pouvoir de donner la vie à ce qui est mort en dehors de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir au point suivant. Mais pour conclure ce point, il est important de comprendre que celui qui se fait baptiser manifeste par le symbole de la disparition dans l'eau la mort de son ancienne nature. La chenille mise dans le cercueil qui est représentée par l'immersion dans l'eau du baptême ou dans la chrysalide ou le cocon. Jésus-Christ est mort avec le péché et la nature pécheresse de la personne baptisée qui confesse sa foi. Christ est mort avec ces péchés-là et cette nature pécheresse de la personne baptisée qui confesse sa foi. Car ils ont été posés sur lui. Ils ont été mis dans son casier judiciaire à la place du baptisé. Jésus-Christ est lui-même devenu péché. 2 Corinthiens 5:21. Voilà pourquoi le baptisé s'identifie à la mort de Jésus-Christ. Son ancienne nature est morte avec Jésus à la croix. Jésus, on pourrait dire, c'est comme notre chrysalide, si je peux me permettre cette analogie. C'est ce que nous avons lu dans Romains. Romains 6, 3 et 4, que nous allons voir plusieurs fois. « Ignorez-vous que nous tous y avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. » Mais comme vous allez le voir, les baptisés ne restent pas sous l'eau. Ils en ressortent. Et cela symbolise en fait la résurrection. C'est notre deuxième point. Si on continue le verset de Romains 6, 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, de même nous aussi. » Si Jésus peut être par analogie vu comme la chrysalide, en fait il est aussi le cœur qui fait vivre le papillon. Donc notre deuxième point, uni avec Christ dans sa résurrection. Ainsi la chenille disparaît dans la chrysalide, c'est un papillon vivant qui en sort. Et ouais, il doit un petit peu sécher là avant de pouvoir s'envoler, c'est vrai. Mais tout est là en fait. Il a reçu une nouvelle nature. Dans la Bible, il y a un texte très fort que plusieurs connaissent par cœur ici qui dit « Si quelqu'un est en Christ, c'est être uni avec Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Comme un fœtus qui a déjà un ADN complet. Rien ne manque. Rien. Il va simplement se développer. Celui qui est mort avec Christ et ressuscité avec Christ a une nouvelle nature qui va se développer. Rien ne lui manque. Donc comme un fœtus qui a l'ADN, il n'y a rien qui manque. Simplement, il va se développer, évidemment. Il va se développer. Celui qui est mort et ressuscité avec Christ a une nouvelle nature qui va se développer. Rien ne lui manque. Et ça, on l'a entendu ces dernières semaines. Marc, le papa de quelqu'un qui se fait baptiser, le fils de quelqu'un qui se fait baptiser, a prêché dernièrement sur 2 Pierre où il est écrit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Ou encore dans Colossiens 2:10, qui est un des versets clés de ma vie, qui dit ceci « Et vous avez tout pleinement en lui, en Jésus-Christ, qui est le chef et la principauté de tout pouvoir. » En fait, rien ne manque. Le papillon peut vivre, voler, manger, etc. Rien ne lui manque. Et celui qui prie Dieu et qui dit ceci, « Je crois que Jésus-Christ a pris ma juste condamnation en mourant à la croix, qu'il me donne la vie par sa résurrection. Je crois qu'il me donne une nature nouvelle qui n'est plus dans le royaume du péché. Je te remercie, ô Dieu, pour ce miracle, ce don de grâce et d'amour impossible à comprendre sans l'aide de ton esprit. Merci pour mon union avec Christ qui me donne en lui une nouvelle vie, un nouveau départ, une espérance fiable face à la mort physique et à toutes les épreuves que je peux rencontrer. Merci parce que maintenant ta parole ne me paraît plus si sombre. J'y vois des points lumineux et la lumière se fait petit à petit et je commence à comprendre. Quand j'ouvre la Bible, je comprends des choses. En faisant cette prière, je confesse en fait ma foi, ma confiance que je crois ce que Jésus a fait pour moi, que sa vie commence à se manifester en moi. En fait, ceux qui se feront baptiser confessent leur foi dans le Christ ressuscité. Et lorsqu'ils ressortiront de l'eau plein de vie, c'est ce qu'on souhaite évidemment, qu'ils ressortent plein de vie, ce seront des symboles visibles de la résurrection. Le papillon sort de sa chrysalide. Je vous annonce déjà que le baptisé, une fois qu'il ressort de l'eau, il ne restera pas là dans le lac. Il va en sortir, il va bouger, il va marcher. En fait, il va vivre sa vie. Si on relit Romains 6, 3 et 4, nous voyons ici ce qui est écrit. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui, ça on l'a vu dans le premier point, dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, on vient de le voir dans ce deuxième point, pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est le dernier point. Unis avec Christ dans sa mort, dans la résurrection et dans sa vie. Unis à Christ dans sa vie. En fait, le papillon est maintenant dans un nouveau royaume. Ce n'est plus le royaume des chenilles. Il est dans le royaume des papillons. Et légalement, l'ancien tyran n'a plus aucun droit sur lui. Il n'est plus dans son royaume. Il n'a plus aucun droit sur lui. Même s'il peut essayer de lui faire de mal, il va le faire généralement, il n'a plus d'autorité sur lui. Il n'est plus sous son autorité. Alors, l'illustration du papillon ne nous permet pas de tout expliquer. Évidemment, c'est une illustration. Mais une direction nous est donnée. D'ailleurs, le papillon, en principe, ne mange plus la même chose qu'une chenille. Vous ne verrez pas un papillon qui commence à manger des feuilles. Un papillon ne va plus se déplacer de la même manière. Il ne rampe pas, le papillon. Par contre, il continue à être dépendant des plantes pour se nourrir. Comme des éléments, hein, je veux dire. Celui qui a une nouvelle nature en Christ, ben, continue à vivre ici. Je veux dire, on ne voit pas un changement physique. Mais il y a des choses qui ont changé spirituellement. Tout a changé, comme d'une chenille à un papillon. Et celui qui prie Dieu et dit « Je te loue, mon Dieu, de me donner un Père parfait qui va prendre soin de moi, me corriger, me ramener toujours sur le droit chemin, m'aimer d'une manière où il est toujours disponible, les bras toujours ouverts pour m'accueillir. Je te prie que ton esprit remplisse mon cœur et ma vie afin que je sois guidé par toi. Merci de me donner la force de résister au mal. » Et lorsque malheureusement les habitudes de mon ancienne nature reviennent, aide-moi à te le confesser, à ne rien te cacher, à revenir vers mon Sauveur qui est mon seul espoir, mon assurance, ma paix. Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi. Je veux te servir, je veux te donner les commandes de ma vie, car tu sais mieux que moi ce qui est juste et bon. Je veux t'aimer et aimer ton peuple. Je veux annoncer la bonne nouvelle de la délivrance du royaume du péché. Merci pour ta grâce que je ne pourrais jamais mériter, mais que tu donnes pour que je puisse t'être utile. Au nom de Jésus. Amen. En fait, en faisant cette prière, j'affirme et désire vivre mon union avec Christ. Mort à l'ancienne nature, ressuscité dans une nouvelle nature et vivant dans cette nouvelle nature. Alors là, une question qui peut venir en lisant ces textes, mais celui qui a une nouvelle nature ne pêche-t-il plus? Il y en a qui sourient. Pourquoi il sourit? Comme moi d'ailleurs. Non, c'est pas ce que le texte dit. Parce qu'il est même dit au verset 13 qu'il ne faut plus livrer ses membres au péché. En fait, s'il n'y avait plus de péché, plus rien, ben on ne dirait plus qu'il ne faut pas livrer le membre au péché, puisqu'il n'y en aurait pas. Ce n'est pas dit que le péché n'existe plus. Mais il n'est plus esclave du péché. Il n'a plus de droit légal sur cette personne. Romains 6, 6, là. Hein. Le péché ne domine plus sur lui à cause de la grâce de Christ, Romains 6, 14. Et comment est-ce que cela fonctionne? C'est que quand on pêche, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon et on a le bouclier de la grâce qui vient, si on parle du bouclier comme tout à l'heure. Et là, il ne peut plus rien faire, l'accusateur. Romains 8 le dit. Qui nous accusera? Personne. Christ a payé. C'est ainsi qu'il n'y a plus de domination du péché. Par contre, c'est vrai que celui qui a cette nature continue à être tenté. Souvent, il péchera encore malheureusement, mais il ne pourra pas rester dans le péché. Parce que sa nature ne lui permet pas de rester dans le péché, être tranquille. Comme un papillon, s'il commence à manger des feuilles de nouveau, il va s'arrêter assez vite. Parce qu'il va se rendre compte que sa trompe n'est pas tellement faite pour manger des feuilles, mais plutôt d'aller prendre le nectar dans les fleurs. Il ne va pas commencer à ramper. Il se rend bien compte qu'il n'est pas fait pour ramper sur le sol. Il va voler. Alors, il sera en guerre contre le péché. Avec la nouvelle nature, c'est vrai qu'on est en guerre contre le péché. Alors qu'avant, dans l'ancienne nature, la mauvaise nature, il y avait parfois, ou peut-être souvent même, la guerre contre les conséquences du péché. Ça, c'est juste. Beaucoup se battent contre les conséquences du péché, mais pas contre le péché lui-même. Unis avec Christ, nous avons une nouvelle façon de vivre. Unis avec Christ, nous avons également ses promesses, sa bienveillance, son héritage, sa présence rassurante et puissante. Mais là, je ne peux pas développer, parce que je ne veux pas prendre le temps, sinon on serait très très longtemps ici, ce n'est pas l'idée. On arrive à la conclusion. Relisons Romains 6, 3 et 4. Je pense que vous les comprenez un peu différemment maintenant, ou en tout cas avec un peu plus de relief. Ignorez-vous que nous tous avons été baptisés en Christ? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alors, tout le livre de Romains, si vous lisez Romains 1 à 5, puis après le reste, tout le Nouveau Testament, nous permet de comprendre que ce n'est pas le baptême lui-même qui nous transforme, hein, qui est la base de la transformation, mais il manifeste visiblement un symbole très fort. En voyant entrer ceux qui se feront baptiser dans l'eau et être immergés, nous saurons donc maintenant que cela symbolise la mort de l'ancienne nature unie au Christ à la croix. C'est la mort de la chenille. En voyant sortir de l'eau, eh bien cela symbolise la résurrection unie à Christ, le don de la nouvelle nature. On pourrait dire le papillon prend vie. Et en l'en voyant sortir du lac, cela symbolise la nouvelle vie unie avec Christ. Le papillon apprend à vivre selon sa nouvelle nature. Et chacun ici peut vivre cette métamorphose. La prière que vous trouvez au dos des petits documents qui vous ont été distribués peut vous y aider. En fait, c'est les trois parties mises ensemble de la prière que je vous ai proposée pendant la prédication. Et la vie éternelle attend ceux qui ont reçu cette nouvelle nature, alors que la mort éternelle attend ceux qui restent dans la nature mauvaise reçue. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Jean 3, 36, c'est la Bible elle-même qui dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes ici réunis et cette parole est très forte. J'aimerais te prier, Seigneur, que pour ceux qui ont saisi le sens de ces paroles, ce soit un puissant encouragement. D'être fortifié, bien plus que de bonnes vitamines. Je te prie pour ceux qui peut-être n'ont rien compris. Que Seigneur, ta parole puisse résonner, que ton esprit puisse agir. Parce que nous désirons, Seigneur, que personne ne vive la deuxième partie du dernier verset que nous venons de lire. Seigneur, nous te remercions parce que cette journée nous permet de nous réjouir de ton œuvre. Parce que c'est toi qui œuvres dans les cœurs, ce n'est pas nous. Par contre, nous sommes pleinement impliqués. Et nous te remercions pour les forces, les capacités, l'intelligence, la compréhension que tu donnes pour que nous puissions vivre, Seigneur, d'une manière responsable devant toi. Sois loué, sois béni, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.